Radio Kapi.
Jean-Pierre Lacroix arrive à Kinshasa ce mercredi après sa visite en Ituri. Le programme du secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix prévoit notamment une rencontre avec le chef de l'État et le Premier ministre dans la capitale congolaise. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces de la RDC. L'enregistrement des candidatures se clôture aujourd'hui pour le député provincial Jean-Claude Chilumbayi, cadre de l'UDPS. Son parti a comme mission de gagner dans toutes ses provinces, il l'a dit hier à Radio Kapi. En temps de guerre, la Radio Kapi a servi de pont pour que les gens continuent de se parler. Elle a barré la route à la rumeur qui entraînait des conflits. De ce point de vue, Radio Kapi a aidé à apaiser les esprits. C'est le témoignage du professeur Imani Mapoli de criminologie. Il est notre invité ce matin. Madame, Messieurs, bonjour. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix arrive à Kinshasa ce mercredi. Son programme dans la capitale congolaise prévoit notamment une rencontre avec le chef de l'État et le Premier ministre. Hier, Jean-Pierre Lacroix était en Ituri accompagné du ministre congolais de la Défense. Les deux se sont rendus au camp des déplacés de Roe, un camp protégé par les FARDC et les casques bleus onusiens. Sur place, Jean-Pierre Lacroix a déclaré que les Nations Unies vont continuer à appuyer le gouvernement de la RDC pour restaurer la paix. Des détails avec Isaac Remoyope.
Pendant sa visite de quelques heures à Roe, environ 80 km de Bounia dans les territoires de Djougou, Jean-Pierre Lacroix a échangé avec des chefs coutumiers, les notables et acteurs de la société civile, ainsi que les humanitaires. Tous sont revenus sur la nécessité et l'urgence de restaurer l'autorité de l'État en Ituri pour leur permettre de regagner leurs milliers d'origine. Cela en utilisant tous les mécanismes possibles, à savoir les négociations, la force ou le désarmement des groupes armés. Tous se disent lassés de compter les morts presque chaque jour, en plus des autres graves violations des droits de l'homme commises par les groupes armées. Et concernant la situation humanitaire, les conditions de vie des déplacés sont très préoccupantes. Les humanitaires ont déclaré que les besoins sont énormes par rapport aux ressources disponibles pour soulager les souffrances de ces personnes vulnérables. Pour ces différents groupes, le passage du patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU leur donne l'assurance d'une solution à leurs problèmes. De son côté, Jean-Pierre Lacroix a déclaré que l'ONU va renforcer son soutien au gouvernement pour le maintien de la paix, le processus de désarmement des groupes armés et l'aide humanitaire. Bounia, Isaac Remoyope, Radio au Capi.
Pour sa part, le ministre de la Défense a rassuré la population de la détermination du gouvernement à pacifier l'Ituri. Pour ce faire, Gilbert Kabanda a annoncé certaines mesures, notamment le renforcement des effectifs des militaires pour imposer la paix et permettre le retour des déplacés dans leur village d'origine. Reportage d'Isaac Remoyope rendu par Fulbert Balolagué.
Parmi les dispositions prises par le gouvernement sur la situation sécuritaire en Ituri, le ministre de la Défense a reconnu d'abord la nécessité de renforcer l'effectif des militaires des FARDC dans cette province. Cela pour deux objectifs. D'abord, pour imposer la paix dans le cadre de l'état de siège. Puis, pour sécuriser la population dans leur village d'origine où parfois il n'y a pas de militaires. Il a déclaré que les équipements militaires sont disponibles pour atteindre ces objectifs. Dans le cadre humanitaire, il a annoncé l'installation d'un hôpital militaire qui sera accompagné du déploiement du génie militaire pour aider les milliers de déplacés dans la zone, notamment dans les travaux de reconstruction des infrastructures. Le ministre de la Défense a rassuré la population que dans un mois, toutes ces mesures seront appliquées pour répondre à leurs préoccupations. Enfin, pour Gilbert Kabanda, le gouvernement de la RDC est conscient des souffrances de la population de l'Ituri, victime des atrocités des groupes armés, et met tout en œuvre pour en finir une bonne fois pour toutes avec l'insécurité, a-t-il conclu.
Entre-temps, les ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba se sont réunis mardi à Kinshasa. La rencontre prépare le sommet des chefs d'État et des gouvernements prévu demain jeudi dans la capitale congolaise. À l'ouverture des travaux hier, l'envoyé spécial de l'ONU pour les Grands Lacs a exprimé sa satisfaction sur la tenue de ces assises. Pour sa part, le ministre congolais de la coopération régionale s'est réjoui des avancées obtenues dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Addis Abeba, qui totalise 9 ans cette année. Des avancées comme le renforcement par la RDC de la lutte contre les groupes armés sur son territoire et la volonté affichée d'encourager les projets de développement en faveur des populations. D'autres détails avec Donna Madimba Mbaya.
La réunion des présidents de ce jeudi peut enfin commencer en toute tranquillité. Les ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre, les garants ou leurs délégués viennent de conclure leurs assises préparatoires. À la clé, le communiqué final qui est de qualité selon l'envoyé spécial de l'ONU dans la région des Grands Lacs qui ne pouvait en dire plus à ce stade, la primeur étant réservée au chef d'État. Au début, les préparatifs de ce mardi, l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs et le ministre congolais de l'intégration régionale qui ont pris la parole ce matin ont exprimé leur satisfaction des avancées obtenues à ce jour dans l'application de l'accord cadre, même si de nombreux défis demeurent encore à ce jour à relever.
Dans l'actualité, sachez aussi que le sénateur Matata Ponyo a écrit au chef de l'État pour solliciter son intervention afin, dit-il, de faire cesser les multiples violations des droits de l'homme dont il est victime depuis quelque temps, d'une part, et de l'autre, de rétablir ses droits et libertés. Sa lettre intervient après avoir été interdit de se rendre à Lubumbashi aux obsèques de sa sœur. Dans sa lettre au chef de l'État, Matata Ponyo évoque une succession de violations de ses droits fondamentaux, non seulement en tant que citoyen, mais aussi en tant que sénateur. Il rappelle que dans son arrêt rendu en date du 15 novembre 2021, la Cour constitutionnelle indique que selon la Constitution de la République, aucune juridiction d'ordre judiciaire ne peut juger un ancien président de la République et un ancien premier ministre. Je vous le disais en titre, clôture ce mercredi de l'opération d'enregistrement des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces de la RDC, élection prévue le 6 avril prochain. Dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier, qui est revenue sur cette élection, le professeur Jean-Claude Chilumbayi, député provincial et cadre de l'UDPS, a annoncé que son parti politique a comme mission de gagner dans toutes ces 14 provinces. Cependant, il affirme que dans cette démarche, le parti présidentiel tiendra compte de ses alliés au sein de l'Union sacrée de la nation. Il pense qu'à travers cette élection, il faut définitivement tourner la page PPRD. On écoute le professeur Jean-Claude Chilumbayi dans cet extrait choisi par Guy Matetongo.
L'ambition, c'est bien évidemment que les provinces soient dirigées par l'UDPS pour que nous ayons la possibilité de dérouler avec cohérence notre projet de société. Mais bien, nous avons des alliés, nous sommes dans une grande plateforme politique, l'Union sacrée. Il appartient à monsieur le secrétaire général qui doit ou qui a la charge d'entrer en contact avec les autres partenaires de devoir faire des équilibres nécessaires là où on estime que tel allié pourrait avoir beaucoup plus de chances pour autant que nous tous nous soyons dans l'esprit de travailler pour la réussite du mandat du chef de l'État. Nous nous sommes préparés pour gagner ces élections-là et que je ne vois personne qui soit aussi nostalgique pour penser remettre une seule de nos provinces au PPRD à la famille Kabila. Nous sommes plus que jamais, avec l'ensemble de la population, déterminés de tourner définitivement cette page-là. Donc, les surprises sont démocratiques, mais nous sommes préparés.
Cependant, pour André Tambwe Katambwe, député national et cadre du PPRD, ni le PPRD ni le FCC ne sont concernés par ce processus qui n'a rien à voir avec une élection crédible, dit-il. Ce cadre du FCC soutient qu'il ne s'agira pas d'élection, mais plutôt d'un processus de cooptation et de nomination des gouverneurs. On l'écoute dans cet extrait choisi par Guy Maté.
Pour nous, la question électorale sur les 14 provinces à compétir pose le problème des trois pesanteurs. Le pesanteur au niveau de l'organisateur. Est-ce que nous avons aujourd'hui une technique capable d'organiser des élections démocratiques, transparentes et fiables et crédibles? J'ai dit non et nous allons voir dans les jours qui viennent comment cette technique va invalider des candidatures tout à fait conformes mais qui vont être considérées comme des candidatures gênantes par rapport au ticket entre guillemets de la fantomatique Union sacrée. Un autre pesanteur, c'est le bénéficiaire. Est-ce que l'Union sacrée, en tant que plateforme politique fantomatique, est capable de supporter un jeu politique démocratique? Je dis non. et le troisième pesanteur, c'est au niveau des acteurs, que sont les députés provinciaux ou les assemblées provinciales. Ces assemblées provinciales ont été embrigadées par certaines missions des caciques de la présidence qui ont sillonné tous les coins et recoins de la République uniquement pour faire peur aux députés provinciaux, pour leur dire non, nous sommes venus vous dire que le président de la République veut tel, tel, tel candidat.
Direction le Kassai-Oriental, la ville de Mbujimayi dans le Noir depuis vendredi dernier, le directeur général de l'entreprise qui commercialise l'énergie électrique affirme que des pannes sont survenues sur deux machines de la centrale hydroélectrique de Tchiala. Victor Kabongo affirme que des équipes sont à pied d'œuvre pour réparer et entretenir les machines tombées en panne. Victor Kabongo, joint par Esther Ndalafina.
Deux machines sont tombées en panne directement au même moment. Si vous voyez, le tout ça a commencé vendredi. Il y a le groupe L13, L14 qui, lui, nécessite l'entretien. L13, lui, il nécessite une réparation parce que lui, il est tombé en panne. Mais L14, lui, c'est l'entretien. L'entretien de L14, c'est différent des entretiens des autres machines. Les autres machines, ils ont des vannes individuelles. Quand on ferme, les mécaniciens accèdent dans la turbine sans problème parce que là, il n'y a plus d'eau. Mais pour L14, la vanne est foutue. Ça fait rentrer de l'eau dans la turbine, si bien que les mécaniciens ne savent pas travailler. On ne peut pas faire un entretien dans un environnement où il y a de l'eau, parce qu'il y a la soudure à utiliser là-bas, tout ça. Alors, c'est ça les défauts qu'a cette machine-là. Pour travailler, nous avons fermé les portes en amont du canal qui amène de l'eau dans toute la centrale. On a fermé les portes pour isoler cette machine-là. Pour le moment, elle est isolée. Les gens sont en train de travailler dedans.
Rendons-nous au Maniema. La Direction générale des recettes du Maniema de Germa a procédé au lancement officiel de la campagne de paiement volontaire de l'impôt foncier sur toute l'étendue de la province. Cette taxe concerne les tenanciers des parcelles vides ou construites. Reportage de Florence Kizalunga.
L'impôt foncier est un impôt qui est assis sur les superficies des propriétés bâties et non bâties. Il vise à déterminer les propriétaires de ces superficies, mais aussi donner des moyens à l'État de réaliser sa politique de développement, a dit le directeur général Sadiq Yuma.
Les biens fondés de cet impôt vis-à-vis d'abord du requérant, c'est que c'est un élément de plus de preuve pour prouver que c'est lui le propriétaire de cette superficie. Et pour ce qui est de la province, c'est un impôt et en contrepartie, on attend de la province les actes de développement.
L'autorité provinciale invite tout le monde à s'acquitter chacun de son devoir.
Je lance un appel à l'implication de nous tous en ce qui concerne le civisme fiscal. Cela n'épargne personne. Vous êtes autorité au niveau de l'État, vous devez vous acquitter de l'impôt. Il n'y a pas une maison d'intouchable. Toutes les maisons sont concernées ici. Toutes les parcelles sont concernées par l'impôt foncier.
Signalons que cette campagne, qui a une durée de un mois, intervient après une matinée fiscale organisée le 11 février dernier. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Vous savez, Radio Okapi a vu le jour en RDC dans le contexte du conflit armé en 1998 à Bunia dans l'Ituri. La radio est allée à la rencontre de deux personnalités originaires de cette province pour recueillir leurs témoignages à l'occasion des 20 ans d'anniversaire de ce média. Pour ces personnalités, Okapi a énormément contribué au processus de pacification de cette province durant les périodes où les populations de cette partie du pays étaient plongées dans une crise sécuritaire à la suite des conflits armés entre les communautés. Je vous propose de suivre ce reportage de Jean-Claude Lokidile.
Pascal Cavarios est professeur d'université et acteur politique. La quarantaine est révolue, natif de l'Ituri. Il dit avoir vécu l'avènement de l'installation du studio de la radio Capi, antenne de Bounia, en 2003. Le 25 mai de cette même année, les premières émissions étaient lancées sur les ondes de la radio Capi au départ de Bounia. C'était au plus fort de la crise intercommunautaire pendant que des balles sifflaient à travers la ville ainsi qu'à l'intérieur de la province. Pascal Cavarios se souvient alors que seule Radio Capi était en mesure d'apporter à la population sinistrée des messages de paix et de cohésion sociale, ce qui avait permis, selon lui, de diminuer la tension communautaire.
La radio Okapi mérite d'être appelée porte-parole des Ituriens en détresse. Quand cette radio est arrivée en 2002, c'était juste après des grands événements qui n'avaient jamais pris fin. C'est cette radio qui, de gauche à droite et dans tous les coins, donnait quand même la situation sécuritaire de la place, la cohésion sociale, la pacification de l'Ituri, malgré qu'aujourd'hui les gens ne savent pas reconnaître tout ce que la MONUSCO a fait.
Signalons que de nombreux habitants de l'Ituri souhaitent que cette radio Capi continue à informer la population, même après le départ de la mission onusienne de la RDC. Bounia, Jean-Claude Lokidi, les Radio Capi.
Actualité, Afrique Monde.
Le Sénégal et la Turquie promettent d'entretenir leurs relations vieilles de plusieurs années. C'est dans ce cadre que s'est inscrite la visite du président turc à Dakar. Agriculture, environnement, énergie et autres, les axes de coopération Ankara-Dakar ont plusieurs axes à explorer et les échanges commerciaux ont dépassé déjà le demi-milliard de dollars selon les chiffres officiels. L'année dernière, ils ont connu une hausse de plus de 40% et les deux parties rêvent plus grand.
L'invité.
En temps de guerre, la radio Capi a servi de pont pour que les gens continuent de se parler. Elle a barré la route à la rumeur qui entraînait les conflits. De ce point de vue, Radio Capi a aidé à apaiser les esprits. C'est le témoignage du professeur Ima Nimapoli à l'occasion du 20e anniversaire de Radio Capi. Ima Nimapoli, professeur de criminologie à la faculté des droits de l'université officielle de Bukavu, est notre invité ce matin. Il s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Professeur Ima Nimapoli, bonjour.
Bonjour madame.
Aujourd'hui, nous célébrons les 20 ans de la radio Capi. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez écouté cette radio?
La première fois, pas exactement, mais je vois un peu la période. C'était au début de la radio, quand elle commençait. C'était un moment fort de l'histoire, je crois, de ces pays, quand, je pense, c'était les dialogues entre Congolais qui se tenaient à Sun City. Et alors, nous tous, quand j'ai commencé, en tout cas, je sais que je n'ai plus arrêté.
Et vous vous rappelez de quelle émission c'était?
Bien sûr, dialogue entre Congolais, avec un présentateur très célèbre qui nous a tous marqués, je crois, Jérôme Ngongo, qui s'est imposé, je pense, dans les paysages médiatiques au départ, de ses analyses, de la qualité de son émission, des intervenants et surtout de l'indépendance avec laquelle il analysait l'information. À l'époque, c'était quelque chose de très, très, très spécifique à Radio Capi, d'autant qu'on était en guerre. Ça veut dire les radios étaient partisans du côté du pouvoir à Kinshasa. Ben, il fallait dérouler l'idéologie de ces coins-là. Du côté de l'Est où nous étions, c'est les rebelles avec leur philosophie et leur version des faits.
Donc ça, c'est vraiment ce côté qui vous a marqué de la radio Capi, le fait qu'elle soit, selon vous, l'église au milieu du village.
C'est ma lecture. En tout cas, moi, ce qui m'a séduit à travers cette radio, c'est ce côté-là libre, indépendant, où on donne la parole à toutes les parties. Et je pense que ça a été sa force, finalement. Et cette radio-là a servi des ponts pour que les gens puissent se parler, pour que les gens puissent se comprendre, s'entendre, et finalement, pour que l'attention puisse baisser. La bonne information a au moins barré ou tordu les coups à la rumeur et à toutes ces rumeurs-là qui finalement étaient mortifères ou entraînaient la guerre et des conflits et tout ça. En tout cas, Radio Capi a aidé à apaiser les esprits en disant déjà ce qui se passait.
Alors aujourd'hui, 20 ans après, quel moment de la radio vous a ému?
Comme habitant de Bukavu, j'ai le souvenir précis de l'attaque de la ville par les militaires de Nkunda. Ça, c'était un moment qui a été quand même très, très, très particulier. Et encore une fois, Radio Capi s'est illustré en nous donnant la vraie information. Parce que c'est l'époque où on vous tombe dessus, où vous avez des gens qui débarquent ou qui avancent. Déjà, il faut savoir comment ils avancent, à quel rythme et quelles sont leurs revendications. Ça, c'est Radio au Capi. Par la suite, maintenant, on pouvait aller chercher l'information via RFI, tout ça, mais les signaux en FM n'étaient pas donnés. Et les Bukaviens qui ont été présents dans la ville en ces moments-là, je pense que pour la plupart, ils se souviendront de ces moments via les analyses faites sur Radio Capi. Alors, d'autres moments, il y en a eu, même à l'étranger, pour avoir l'information, la vraie en tout cas, ou celle qui pouvait être fiable, il fallait maintenant surfer sur les sites des radios Capi. Aujourd'hui, ça tombe, j'allais dire bien, mais même si c'est un souvenir un peu triste, c'est l'accident à l'aéroport de Kavumu, des notables de ce qui est devenu aujourd'hui les FCC, dont les futurs premiers ministres, Matata Mponyo, tout ça, j'ai suivi sur Radio Capi presque en temps réel.
Au regard de tout ce que vous êtes en train de dire, vous pensez que la radio impacte d'une certaine manière la vie des Congolais en général, mais aussi la vie du Sud qui vous tient en particulier?
Bien entendu, je crois que les peuples congolais, il est politique. C'est des gens qui s'intéressent à la politique, mais qui sont facilement déroutés aussi parce que les sources d'informations sont diverses et parfois incontrôlées. Et maintenant, dire que Radio Okapi impacte sur la vie des Congolais, des Sud-Kivuciens, j'ai dit absolument. Absolument oui. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un canal d'information et l'information qui est pesée, qui est sous-pesée, qui est vérifiée. Et ça, dans la vie démocratique, dans la vie politique, bien sûr que ça a un impact. Ça a un impact. Citer Radio Okapi, c'est une source d'autorité, hein, quelque part. Ouais.
20 ans, c'est déjà l'âge de la maturité. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à la Radio Okapi?
Ben encore 20 ans et encore 20 ans et plus d'objectivité, plus d'indépendance, plus de rigueur. Ma conviction est que le Congo a encore du chemin à faire dans la quête de la liberté de la presse. Comme tel, pour moi, la Radio Okapi a encore sa place, sachant que, si ma mémoire est bonne, Radio Okapi, c'est la survivance de Radio Agatacha, je pense. Ça doit être à l'époque des réfugiés, donc c'était l'insécurité qui battait son plein. C'était aussi une radio qui a commencé à aider la population à voir plus clair sur au moins ce qui se passe. Et donc, oui, je pense très clairement qu'on doit rester dans cette continuité-là.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Notre invité, le professeur criminologue Imani Mapoli, était avec Cynthia Bachizi. C'est la fin de ce journal, supervisé par Martin Sebujangwe, coordination d'Élisée Chikota Chivueta. Merci de nous avoir suivis.